Lundi dernier, nous avons évoqué la très belle parabole du fils prodigue qui revient à la maison repentant pour la plus grande joie de son père. Or, si dans ce récit on retient surtout la personne du fils retrouvé, on laisse par contre le frère aîné dans les brumes du décor, car ce fils prodigue a un frère aîné. Je vous propose ce matin de le sortir de son anonymat et de faire plein feu sur lui. Nous étudierons son caractère d'une manière qui paraîtra peut-être sévère, mais nous nous servirons de lui pour faire ressortir certaines caractéristiques de l'homme par rapport à la religion. Nous reprenons donc le récit évangélique dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Luc, au moment où le Père, tout à sa joie, commande à ses serviteurs « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » La surprise du frère aîné est compréhensible. Ce matin, en partant au travail, il n'avait pas été question de réjouissance. Que signifie donc cette musique et cette allégresse? Seulement, au lieu de s'en informer lui-même, il en demande l'explication à un serviteur. En cela, il est l'image de ceux qui n'osent pas regarder la vérité en face. Ce sont ceux qui n'osent pas s'aventurer particulièrement dans le domaine de la religion, de peur de découvrir de nouvelles exigences, de nouvelles contraintes. Ils se sentent irréprochables, pas aussi bons qu'un tel, mais certainement meilleurs qu'un tel autre. Parce qu'ils payent leurs impôts, qu'ils n'ont jamais tué, jamais volé, ils s'imaginent avoir atteint le sommet de la loi du Christ. Pourtant, au lieu de la contempler de loin, de très loin, cette parole du Christ, ce qui équivaut à l'ignorer complètement, il faudrait la regarder en face, car elle a le don de tout mettre à nu. C'est le miroir de la vérité qui renvoie l'image fidèle, réelle, profonde de celui qui se soumet à son examen. Dans le miroir de la Bible, se profile la forme chancelante de ceux qui se croient inébranlables, celle floue et vacillante de ceux qui se croient justes et sans péché. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous avons sans doute quelque peu abusé dans cette interprétation de l'attitude hésitante du frère aîné, en nous en servant pour illustrer la poltronnerie des hommes qui n'osent pas s'engager. Continuons toutefois à suivre cet homme qui revient des champs. À la nouvelle du retour de son frère, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » À ce point du récit, nous pouvons remarquer que l'attitude du frère aîné est motivée par un profond sentiment de révolte et peut-être de jalousie. Il se met en colère. La colère est une manifestation si violente et si soudaine du caractère, un mouvement si désordonné de l'âme, qu'elle fait penser à une éruption volcanique. Dans la Bible, l'homme lent à la colère est honoré comme un héros, car il sait se maîtriser. Être lent à la colère, d'après les proverbes, est aussi le propre de la sagesse et de l'intelligence. La colère est la mère maudite d'actes et de paroles amèrement regrettées. Lorsqu'un homme se laisse dominer par la colère, ce n'est plus lui qui agit, mais le diable. Cette remarque est importante. Car en elle-même, la colère n'est pas une attitude foncièrement répréhensible, pourvu qu'elle demeure assujettie à la raison. Le spectacle de la souffrance injustement subie, par exemple, peut nous remplir de colère et de révolte. Jésus ne s'est-il pas mis en colère contre les marchands qui profanaient le temple de Dieu? Mais c'est ici qu'il faut rappeler les paroles de Paul. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. S'il te faut, laisser monter ta colère. Veille à ce qu'elle n'outrepasse pas ses limites, car elle risque de déborder comme la lave d'un volcan et te faire pécher. L'expression de l'apôtre Paul est en cela très explicite, et ne donnez pas accès au diable. Elle suggère l'idée d'une porte qui s'entr'ouvre imprudemment et par laquelle s'engouffre l'ennemi qui n'attend que cette occasion pour envahir, investir et s'installer. Revenons au frère aîné de notre parabole. Nous le trouvons maintenant campé dans une obstination farouche et déterminée. Il refuse d'entrer malgré l'invitation du père. Il ne songe qu'à lui-même, à son orgueil blessé. Il adresse alors à son père de très durs reproches. « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Notons tout de suite que ce reproche n'est pas justifié. Il n'est pas mérité, car il sait très bien que si tel avait été son désir, il n'aurait eu qu'à se servir. De plus, il tient à rappeler sa fidélité, sa loyauté, alors que ton fils, il ne dit même pas « mon frère », ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il implique que si quelqu'un dans la maison a mérité qu'on tue le veau gras pour lui, ce n'est certainement pas ce vaurien, ce jouisseur qui revient parce qu'il n'a plus rien à se mettre ni sous la dent, ni sur le dos. Cette scène n'évoque-t-elle pas pour vous la parabole du pharisien et du publicain, que Jésus dit en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres? Voici ces deux hommes, ils montent au temple pour prier. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque nous étudions pour la première fois le cas du frère aîné, il faut dire honnêtement qu'on participe un peu à sa révolte. Du moins, on comprend ses sentiments, on mesure son incompréhension, on se met aisément en sa place. Il y a effectivement une apparence d'injustice monstrueuse dans ses réjouissances en l'honneur de ce chien qui nous revient de la ville. Mais c'est ici où il faut écouter la réponse grave et douce du père. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » La parabole s'arrête là. Cette dernière phrase traduit toute la joie du père qui retrouve son enfant qui était perdu et comme mort pour lui. Pourquoi le frère aîné devrait-il se sentir lésé? Il n'a rien perdu par le retour du repenti. Autour de nous, les fils prodigues sont nombreux. Ils gaspillent leur énergie, leur santé peut-être, leur argent et leur temps, hors de la tutelle de Dieu. Gardons-nous de les regarder avec mépris et avec colère, comme le frère aîné, ou avec dédain, comme le pharisien de la parabole de Jésus. Certains de ceux qui se perdent ainsi retrouveront peut-être le chemin qui mène à la maison. Le chemin du repentir et du salut passe souvent par l'épreuve et la souffrance. Qui sait si Dieu ne les aiguillera pas dans cette direction? Les apôtres, par l'autorité du Christ, ont lancé sur le monde l'opération repentance. Dieu veut que les hommes se repentent, parce qu'ils sont pécheurs. C'est là, en l'occurrence, le premier commandement universel qui fut donné au nom du Christ après son ascension. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.